Père, le Fils et le Saint-Esprit, ainsi soit-il. Les Juifs ont leur fête du Grand Pardon, le Yom Kippour, et nous autres chrétiens, nous avons, si j'ose dire, notre fête du Grand Réveil. La fête du Grand Réveil, c'est aujourd'hui, premier dimanche de l'Avent. En effet, quand on considère les textes d'aujourd'hui, les premiers mots de l'introït, hein, « Vers vous, j'élève mon âme, adhérez-la-vie », on n'a pas chanté aujourd'hui, mais vous l'avez tous eu sous les yeux, à l'Évangile, « Redressez-vous et relevez la tête », dit le Seigneur Jésus, en passant par la collecte, « Réveillez, Seigneur », et puis même l'épître de saint Paul, « L'heure est venue de sortir de votre sommeil », tout dans cette messe est une sorte d'alarme qui résonne à nos oreilles comme pour nous secouer de notre léthargie. À bien considérer les choses, ça fait 8 mois que nous devrions être dans l'attente de l'incarnation, ou plutôt dans l'attente de la naissance du Seigneur Jésus. Il y a 8 mois, le 25 mars précisément, c'était le moment pour le Verbe de prendre chair dans la Vierge Marie. Nous sommes à la fin de la grossesse de la Vierge Marie. Elle est presque à terme, notre chère Mère du Ciel. Elle peine à marcher, comme toute femme qui arrive à la fin de sa grossesse. Et voilà que nous sommes, il faut bien le reconnaître, indifférents, presque totalement, à cette chère Maman du Ciel et à son enfant chéri. Alors vraiment, les héros qui annoncent aujourd'hui l'entrée prochaine du souverain dans nos murs, ils ont raison de faire sonner de la trompette. Après ce réveil en sursaut, nous nous trouvons un petit peu dépités, parce que nous réalisons combien rien n'est prêt pour accueillir l'enfant Jésus. Lorsqu'un foyer est sur le point d'accueillir un premier enfant, je parle à la majorité d'entre vous qui avez eu cette expérience magnifique, eh bien, tout est prêt, mais tout est prêt depuis le début. Pendant de très longs mois, dès qu'on sait en fait qu'on attend un enfant, on prépare, enfin quand il s'agit du premier, après on s'apaise un peu, mais pour le premier c'est le cas, avouez-le, on prépare tout dans les moindres détails, hein, tout est de la chambre au lit, en passant par la layette, et jusqu'aux couches, rien ne manque, déjà quelques mois avant la naissance, pour accueillir ce premier-né. Et nous, grossiers personnages que nous sommes, nous ne serons même pas capables, dans un mois, d'accueillir l'enfant Dieu, qui est notre Créateur et qui est notre Sauveur. Nous ne serons pas capables d'accueillir la Vierge Marie sur le point d'accoucher. Ça fait 2000 ans que ça dure, cette indélicatesse humaine, et avouons-le, nous en sommes. Nous ne sommes pas meilleurs que ces personnes habitant Bethléem qui refusèrent à la Vierge Marie et à son époux, alors même qu'elle était sur le point d'accoucher, leur hospitalité. Eux avaient au moins une excuse, celle de ne pas savoir que derrière les traits de cette jeune femme et de cet homme se cachait rien moins que Saint Joseph, patron universel de l'Église désormais, que la Vierge Marie, la Reine des Anges, et en son sein, le Créateur et Maître de toutes choses. Nous le savons, mais je crois que nous risquons de ne pas faire mieux que les Bethléemites de l'époque. Et pourtant, nous entendons à longueur d'année répéter toutes sortes d'évangiles et de paraboles. Prenons par exemple le commun des vierges, avec cette fameuse parabole que vous connaissez tous autant que moi, avec ces vierges, ces 10 vierges dont 5 sont prudentes et dont 5 sont étourdies. Toutes dorment à point fermé. Et lorsque survient l'époux, en sursaut elles se réveillent. 5 avaient prévu les choses, elles avaient préparé la pièce, elles avaient de l'huile de rechange pour leur lampe, et 5 n'avaient rien préparé du tout. Et nous savons ce qu'il advient de ces 5 dernières. Elles se rendent en ville, tentant d'acheter un peu d'huile pour entretenir leur lampe, pour être présentes dans la pièce des noces. Enfin, elles arrivent, la porte est close, on ne veut pas d'elles. Est-ce que nous ne sommes pas coutumiers de cette autre parabole, qui est celle du commun des confesseurs cette fois-ci, et qui advient presque une fois par semaine dans la liturgie tridentine, où il est question de serviteurs qui attendent leur maître? Ne connaissons-nous pas par cœur les paroles du Seigneur Jésus qui nous y dit « Soyez semblables à des serviteurs qui attendent leur maître lorsqu'il revient de noces, afin de lui ouvrir dès qu'il frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera vigilant. » Voyez, nous avons à longueur d'année un aiguillon de la part du Seigneur et de la part de l'Église pour nous inciter à être debout quand le Seigneur arrivera. Et pourtant, nous sombrons dans le quotidien, dans la léthargie perpétuelle. Face à de telles mises en garde, que croyons-nous vraiment, mes frères? Je crois qu'il faut regarder la réalité en face. Est-ce que nous pensons, est-ce que nous avons le toupet de penser que nous ferons exception à la règle qui est donnée dans ces paraboles? Est-ce que nous croyons qu'on ne nous mettra pas dehors si nous ne sommes pas prêts? Est-ce que nous croyons vraiment que si rien n'est prêt, le maître qui arrive nous fera mettre à table et gentiment nous servira? Je crois là, mes frères, qu'il s'agit de présomption. Et cette présomption, nous l'avons tous en partage. Alors, au début de l'Avent, il faut saisir l'occasion, nous réveiller, parce que le Seigneur est bon et qu'il n'est jamais trop tard, heureusement. Il a bien fait les choses. Nous aurions mérité déjà depuis bien longtemps d'être mis dehors et qu'il s'en soit terminé pour nous de cette relation à Dieu. Nous sommes des serviteurs indignes. Mais le Seigneur, dans sa bonté, a permis que les ouvriers de la 11e heure, que nous sommes tous, trouvent une place au champ, à la vigne, et que nous puissions, même seulement 4 semaines avant Noël, nous mettre à pied d'œuvre. Alors, lorsqu'on considère les paroles du Seigneur dans cet évangile, on peut se dire qu'elles ne concernent que la fin du monde, avec ces nations qui sont dans l'angoisse, avec ces hommes dont on nous dit qu'ils sont mourants de frayeur. Vous voyez, on se dit, ça c'est bon, c'est pour la fin du monde. Et la fin du monde, plus à Dieu qu'elle advient bien tard dans l'histoire, bien après notre mort, en tout cas, vous voyez. Mais est-ce que c'est au petit bonheur de la chance que l'Église a choisi ce texte pour le premier dimanche de l'Avent? Autrement dit, est-ce que l'Église ne veut pas nous faire comprendre que ces textes-là, avec l'angoisse des nations, avec des hommes qui meurent de frayeur, il s'applique également à la venue du Seigneur Jésus dans un mois? Est-ce que dans un mois, si nous ne sommes pas prêts, nous ne serons pas un petit peu dans l'angoisse? C'est contre ça que l'Église veut nous prévenir en nous invitant à mettre dès maintenant la main à la pâte. Voyez, alors vous pourrez me dire que ce sont des perspectives bien sombres pour une homélie d'entrée dans l'Avent. L'Avent, normalement, c'est la mise en place de la crèche, c'est la perspective prochaine des retrouvailles familiales, des cadeaux pour les enfants, de bons festins pour les plus âgés. Voilà, c'est tout ça, l'Avent. Et voilà que l'abbé nous attriste, ou du moins nous montre une perspective bien sombre. Et oui, mon but n'est pas de vous faire désespérer, ni de me faire croire non plus, parce que je m'inclus largement dans ce que je vous dis, que les carottes sont cuites et que tout est fini. Non, Jésus a cette phrase dans l'Évangile, « Votre délivrance approche ». Cette perspective de nécessité d'agir, de nécessité de se réveiller, elle est accompagnée en même temps de cette perspective consolatrice d'un salut prochain. Vous voyez, Dieu vient, comme chaque année, par la magie de la liturgie. Il ne faut pas être tétanisé par ce réveil à l'eau froide des textes d'aujourd'hui, et il faut se mettre à l'œuvre. C'est comme si Jésus, avant même son incarnation, nous disait « Lève-toi, prends ton grabat et marche ». Peu m'importe, finalement, c'est ce que semble dire le Seigneur Jésus aussi, peu m'importe ton passé, peu m'importe cette année liturgique qui vient de s'écouler, elle a été nulle, tu le sais, je le sais bien, tu n'es pas un bon chrétien. Peu m'importe, ce qui m'importe, c'est le présent. Maintenant, lève-toi et coopère, prépare ma venue, et alors je te rembourserai au centuple. Vous voyez, c'est cette perspective-là magnifique qui doit s'ouvrir devant nos yeux au début de l'Avent. Il faut être prompt à rattraper le temps perdu et compter sur cette miséricorde d'un Dieu qui oublie tout. Maintenant, on peut se convertir, et maintenant, le Seigneur peut nous combler. Alors, pour en venir à des considérations très concrètes, parce que je vous disais la semaine dernière que je vous parlerai concrètement, il y avait au séminaire dans lequel j'étais, à la communauté Saint-Martin, avant d'aller à la fraternité Saint-Pierre, et avant de terminer l'apothéose à l'Institut du Bon Pasteur, il y avait cette coutume très vieille France, j'allais dire, très école française, du fondateur, Mgr Guérin, de cette communauté, de nous communiquer au début de l'Avent et au début du carême ce qu'il appelait une feuille de soins ou une feuille de prescription. Nous avions, chaque séminariste, en accord avec notre directeur spirituel, une liste de petits exercices d'Avent et de petits exercices de carême auxquels nous livrer pendant ces semaines, pour ne pas rester dans une espèce d'oisiveté qui est mère de tous les vices. Vous voyez, c'était une espèce d'aiguillon. Alors nous, première année, je n'ai fait qu'une année là-bas, aucun lien avec cette fiche, mais nous avions, lorsque nous recevions cette fiche pour la première fois, en première année, le réflexe de ces anciens étudiants, disons, qui considèrent qu'on n'est plus à l'école, que ça c'est pour les enfants, que c'est une plaie, et que nous sommes venus au séminaire pour bien d'autres missions, autrement plus nobles, voyez-vous. Et finalement, après avoir rechigné pendant quelques jours, nous nous livrions à ce genre d'exercice. Et à la fin de l'Avent, nous ressentions une joie profonde, une joie vraiment chrétienne, d'avoir essayé de faire notre possible pour que cet Avent soit une préparation authentique de Noël. Nous vivions Noël pour la première fois comme jamais nous l'avions vécu. C'est-à-dire dans un détachement, dans une focalisation sur ce mystère de l'incarnation. Je vous assure que ce genre de petits exercices, sans doute que vous les connaissez ces exercices-là, mais un peu de façon systématique, un peu organisée, parce que nous sommes incarnés, nous connaissons, nous avons besoin d'une feuille de route, tout cela concourt vraiment à notre bonheur. Alors, si vous trouvez que ce genre d'exercice est réservé aux bonnes sœurs, aux curés, aux séminaristes, je me permets d'attirer votre attention sur l'épître de saint Paul aujourd'hui. L'épître de saint Paul, elle concerne tout le monde. Lorsqu'il dit « Délaissons, en gros, le vieil homme, dépouillons-nous des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de justice, les armes de lumière. » Est-ce que vous croyez qu'il va vous suffire, parce que vous êtes au-delà de la norme, d'aller au vestiaire la veille de Noël, enlever le vieil homme, laisser tranquillement les œuvres de ténèbres au vestiaire et revêtir les armes de lumière, bien sûr. Nous savons très bien que c'est par une préparation progressive qu'on se dévêt du vieil homme et de ses œuvres et qu'on se revêt des armes de lumière. Il nous faut au moins 4 semaines pour arriver dans une tenue à peu près décente devant l'enfant Jésus. Voyez ? Et saint Paul donne des exemples très clairs. Cette petite feuille de soin que je vous incite à rédiger dès ce soir, en rentrant chez vous, vraiment, après avoir invoqué le Saint-Esprit, vous voyez, c'est très concret, eh bien, elle devra suivre plusieurs lignes. Saint Paul vous donne des idées. Pas de beuverie, pas de luxure, pas de querelle ni de jalousie. Vous voyez que c'est très concret. Est-ce que l'Avent ne pourrait pas être un temps de sobriété à table, plus que pendant le reste de l'année? Pas de beuverie. Est-ce que l'Avent ne pourrait pas comporter un effort particulier dans le domaine de la pureté? Nous ne sommes pas tous des luxurieux, maladifs, mais tous, nous avons tous cette tendance à la pureté. Soit la pureté dans les gestes, soit la pureté dans les regards, soit la pureté simplement dans les propos. Est-ce que nous ne pourrions pas faire un effort pour arriver décent devant cet enfant? Devant un enfant, on demeure pur. Et bien devant l'enfant Jésus, nous avons tout intérêt, tout motif de nous retrouver à Noël en ayant fait quelques efforts pendant quelques semaines, vous voyez? Alors j'en devine certains qui me diront, monsieur l'abbé, je comprends bien, c'est très important d'être sobre, c'est très important d'être chaste, mais vous savez, à mon âge, celles ne sont plus d'actualité. Je suis maintenant sorti de ces turpitudes. Oui, mais mes chers amis, le troisième point qu'évoque saint Paul, je crois qu'il ne disparaît, disons, une demi-heure, une heure après notre mort, cette tendance à la querelle et à la jalousie. Des vieux querelleurs et jaloux, j'en connais beaucoup. Alors, nous sommes tous, je crois, concernés par ces propositions de saint Paul. Voilà, toutes ces petites choses qui sont autant de présents, autant de petits joyaux que nous pourrons sortir devant l'enfant Jésus à Bethléem, tels les trois mages. Vous voyez, ce sera, je vous le promets, si nous nous y engageons vraiment, très concrètement, ce sera un grand bonheur pour nous que d'arriver ainsi à la crèche. Et pour vous permettre de joindre à ces petits efforts d'avant une réflexion un peu plus approfondie, une reprise en main de votre vie d'oraison et de votre vie de prière, je vous invite vraiment à vous joindre à la récollection que nous organiserons dans 15 jours. À très bientôt. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.